Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ESE Décrypte, le podcast audio de la rédaction d'Espace Social Européen. Cette semaine, j'ai le plaisir d'accueillir Pascal Beau qui va m'accompagner. Bonjour Pascal.
Bonjour Alexandre.
Alors on va débriefer l'actualité un peu brûlante qui tient du week-end dernier, mais bon, qui va quand même a priori s'installer un petit peu dans le paysage sanitaire et social pour quelques semaines, voire quelques mois. Ce sont les annonces, les différentes annonces faites par Gabriel Attal.
Quel désordre Alexandre, quel désordre.
Alors déjà, la quantité d'annonces qui sont assez nombreuses, pour le coup, on en dénombre à peu près une dizaine, on va peut-être pas toutes les passer dans le détail, mais on va quand même s'attarder sur un certain nombre d'entre elles, parce qu'elles interviennent dans un contexte particulier, Pascal. Il y a encore le processus de négociation conventionnelle avec la CNAM d'un côté.
Il paraît.
Et vous avez aussi, sur la sphère hospitalière, les tarifs qui étaient attendus, comme chaque année, qui ont été annoncés donc le 26 mars dernier par le cabinet de M. Valtoux, qui ont un peu embrasé, entre guillemets, le secteur. Pascal, juste un petit mot déjà pour dire pourquoi le Premier ministre intervient-il à ce moment-là?
C'est une bonne question, hein? Je n'en sais rien. Et je ne suis même pas sûr, je crois que beaucoup de gens partagent un peu ce sentiment, enfin, qui sont un peu dans ce processus. On n'est pas sûr que les ministres Catherine Vautrin et Frédéric Valtoux étaient au courant.
Pas de coordination ?
On n'est pas sûr de ça, parce que Valtoux, il avait reçu les syndicats médicaux deux jours avant.
Oui, à peu près.
Il leur avait rien dit.
Enfin,
pas correct. Alors, s'il était au courant et qu'il avait rien dit, en disant « faites attention, suivez la presse, écoutez le Premier ministre, que sais-je », un truc comme ça, quoi. Bon, il aurait mis en garde, mais là, rien du tout. Donc, alors, soit il n'était pas au courant, et donc il a été mis devant le fait accompli, et ça se voit quand même un peu ça. Soit il était au courant, et c'est pas correct de laisser croire aux gens que tout va bien, à peu près bien, dans la négociation conventionnelle, voilà.
Bah, le terrain n'a pas été préparé, très clairement, en amont.
Tout ça est un peu tout fou, hein.
Alors on va revenir un petit peu sur ça, parce que alors ça va être un peu un ping-pong, hein, évidemment, entre Pascal et moi pour débattre
sûr,
de ces trucs. On va revenir, alors peut-être la plus médiatique des annonces, qui n'est pas forcément la plus structurelle, mais la plus médiatique, c'est la fameuse taxe lapin, imaginée depuis plusieurs mois pour sanctionner les patients qui n'honoreraient pas.
Vous en pensez quoi, Alexandre, vous ?
Alors déjà, bon, je pense qu'il y a plusieurs problèmes à la question. Le fait que les rendez-vous non honorés soient un souci, c'est une réalité de pratique, de terrain. Alors, je rappelle que même à nos auditeurs qu'il n'y a pas d'études formelles, officielles,
oui,
structurées.
C'est ça, les chiffres de 27, 28 millions.
Voilà,
comme
ce sont des chiffres remontés par les syndicats qui, à partir d'un échantillon qu'ils ont eux-mêmes constitué, voilà.
Oui,
donc c'est de l'extrapolation.
C'est l'URPS et de France qui a fait ça.
Voilà, c'est de l'extrapolation. Je pense qu'on ne peut pas s'aventurer sur cette question-là.
C'est beaucoup, hein, 27 millions, vous vous rendez compte?
Ce serait énorme.
Plus de 10%, hein.
Voilà, ce serait quand même un peu énorme. Non, la réalité, c'est qu'il y a évidemment potentiellement un problème et il y a une question de responsabilisation des acteurs,
en l'occurrence
celle
des...
C'est un vrai sujet.
Il faut être honnête.
Donc, pour revenir en tant que telle, la taxe lapin, elle interpelle pour deux choses, enfin sur plusieurs aspects. La première, c'est le mode opératoire. Donc pourquoi 5 euros et pourquoi 5 euros seulement aux médecins? C'est une bonne question. Deuxième, c'est la mise en pratique de ce bidule
qui
s'annonce quand même assez compliqué.
On fait comment?
Alors là, d'après le Premier ministre, qui je pense n'est pas un technicien en tant que courant de la chose, on sait que tout ça va prendre un peu de temps et ça va être un peu plus finalisé. Concrètement, ce serait pour les gens qui passent par des systèmes de réservation sur des plateformes.
Doctolib, pour ne pas la nommer.
Ou d'autres, mais bon, en l'occurrence, celle-là est très majoritaire.
C'est la plus connue.
Entre guillemets, les gens donneraient leurs coordonnées bancaires en amont de la prise de rendez-vous et se verraient ponctionner de 5 euros si le médecin constate que le patient ne s'est pas pointé à l'heure du rendez-vous.
Parce que vous croyez un instant à une machine pareille, vous ?
Ah, techniquement, c'est faisable.
Vous allez donner vos coordonnées bancaires à Doctolib et si ça se trouve...
Vous le faites déjà ?
Hein ?
Si vous faites une téléconsultation par Doctolib, vous le faites.
Ah oui, peut-être, oui.
Donc ça peut,
mais
ça existe déjà.
Bon, désolé, je ne fais pas de téléconsulte, moi.
Voilà, c'est votre côté syndicaliste.
C'est mon côté corpo,
donc ça peut se faire.
Mais bon.
Alors ça y est. Oui, mais alors venir la question, mais qu'est-ce qui se passe de Madame Michu qui, elle, ne passe pas par Doctolib, qui appelle le secrétariat ou son médecin elle, justement, c'est là où ça pose problème, c'est la zone un peu grise, c'est-à-dire que Si l'on en croit les dires de Frédéric Valletoux ou de l'entourage du cabinet du Premier ministre, il, entre guillemets, lui serait dit, la prochaine fois que tu prends rendez-vous, enfin vous prenez rendez-vous, on vous ponctionnera 5 euros en plus, on facturera 5 euros en plus, parce que la précédente fois, vous aviez annulé à la dernière minute, sans nous prévenir 24 heures à l'avance. Tout ça me paraît une très belle usine à gaz comme on s'est ancré en France.
Ah oui, il faut s'attendre à plusieurs décrets au Conseil d'État sur un machin comme ça.
Pour quel résultat? Ça, je pense que voilà. Il faut aussi, Pascal, je pense faire un petit commentaire pour rappeler le contexte, entre guillemets, de la prise de parole de Gabriel Attal. J'allais dire Emmanuel Macron, lapsus révélateur, peut-être. Le Premier ministre indique qu'il faut dégager, l'objectif gouvernemental est de dégager 15 à 20 millions de consultations par an supplémentaires. Donc ça, c'est l'objectif. Et donc, ces mesures-là s'inscrivent dans ce contexte-là, dans cet objectif-là. Ce n'est pas juste quelque chose qui est descendu comme ça par l'opération du Saint-Esprit. Ce qui fait intervenir sur le sujet qui est peut-être le plus épineux, c'est celui de l'accès direct aux spécialistes.
Ah oui, ça c'est l'autre proposition.
Qui est peut-être la plus bousculante.
Ah oui, alors là, excusez-moi Alexandre. Écoutez, c'est ce qu'on se disait avant de faire ce micro-là. Ça fait 20 ans, c'est la loi du 13 août 2004 qui instaure le médecin traitant, avec derrière tout un processus, le parcours du patient.
Le gatekeeper,
Le gatekeeper à la française. Ouais. Toutes les réformes, tous les rapports depuis 20 ans disent il faut centrer le parcours du patient avec son médecin traitant. Alors on appelait ça la clé de voûte, le médecin traitant, le médecin généraliste notamment. Voilà. Alors on verra bien ce que le système dérogatoire que le Premier ministre projette.
Une expérimentation dans 13 départements.
Dans 13 départements. Franchement, c'est pas très sérieux ce truc. C'est pas très sérieux. Je ne dis pas. Hein. Avec Gilles Joannet, l'ancien directeur de la CNAM, on avait fait un travail en 2004-2005. On avait calculé qu'il y avait 373 parcours possibles de médecins traitants, enfin de patients avec son médecin traitant, compte tenu de la machinerie qui avait été mise en place au niveau de l'État et de l'assurance maladie. Bon, très bien. Mais vous voyez bien que derrière, vous avez tout un effet séquentiel. D'abord, vous avez un effet de principe politique. C'est-à-dire que si on a fait le médecin traitant, c'est parce qu'on voulait lutter contre le nomadisme médical. Et là, le Premier ministre dit, pourquoi pas le nomadisme médical comme solution alternative aux déserts médicaux? Mais vous croyez-vous un instant que si vous ne trouvez pas de médecin généraliste dans un département, dans une zone, vous allez trouver des spécialistes? C'est une blague, ça. C'est une blague.
Il serait peut-être temps
que le Premier ministre descende de son petit nuage et aille un peu sur le terrain avant de balancer des choses comme ça. Et derrière, vous avez tout un effet séquentiel. Tout un effet séquentiel. Ne serait-ce que, par exemple, c'est pas le sujet, mais les contrats responsables complémentaires santé, ils sont construits autour du parcours du médecin, du patient avec son médecin traitant. C'est toute cette logique-là, toute l'informatique de l'assurance maladie. Quand vous ne respectez pas le parcours, vous êtes sanctionné. Vous n'êtes pas remboursé à 70%, voilà.
Mais à 30%. Moins de remboursement.
Ben oui, ça c'est clair. Bon, on fout tout ça en l'air?
Ben, je vais vous poser une question, tiens. Je vais me faire l'avocat du diable. Est-ce que derrière, comme vous dites, il y a aussi des principes de réalité, il y a des territoires où on a des difficultés, soit on ne trouve pas le médecin spécialiste, soit on a des délais de prise de rendez-vous qui sont conséquentes, sachant que, par exemple, imaginons, prenons le cas de quelqu'un qui doit aller voir un dermatologue. Donc, logiquement, si on suit le parcours, il doit voir son médecin généraliste, et suite le médecin généraliste doit à ce moment-là l'orienter vers un dermatologue ensuite. Ça, c'est le parcours traditionnel tel que conçu par l'assurance maladie, comme vous dites, depuis 2004. Sauf que il y a déjà dans certains territoires des mal à trouver une consultation par un médecin généraliste.
Bah oui.
Et vient s'accumuler le temps ensuite de trouver le dermatologue, ce qui fait deux fois plus de temps. Si je me fais l'avocat du diable, je me dis, est-ce que dans une période de complications budgétaires, supprimer entre guillemets une consultation dans le processus n'est pas une bonne opération, sachant qu'au bout du bout, le patient doit aller voir le dermatologue?
D'abord, encore
je me fais l'avocat du diable, mais bon.
Une fois, si vous ne trouvez pas de généraliste, pourquoi voulez-vous trouver un dermato? Surtout que les dermatos, on les trouve plutôt dans le sud de la France. Hein.
C'est vrai.
Et bon, voilà. Donc, est-ce qu'il y a cette arrière-pensée-là dans cette proposition? C'est possible, mais c'est vraiment accessoire, Alexandre. C'est complètement accessoire.
Il y a aussi un autre aspect politique.
Le problème de base, c'est effectivement réorganiser la médecine de ville, mais c'est des vieux sujets, on ne va pas insister, on l'a répété, pour faire en sorte que tous les Français, tous les patients puissent accéder dans des conditions raisonnables à un médecin traitant. Mais on peut, écoutez, nos amis de France Assos et d'autres encore, nous-mêmes d'ailleurs, on le professe depuis des années, il faut reconcevoir la médecine de ville et avoir une équipe d'accompagnement et de prise en charge des soins. Voilà, bon, c'est ça peut-être. Alors, que à l'intérieur de ça, il y ait des partages de missions, de responsabilités.
Logique.
Oui, très bien, on plaide pour ça depuis 40 ans.
La coopération.
Voilà. Bon, bon, mais est-ce que c'est ça, dans la proposition du Premier ministre?
La réponse
n'est pas claire, à tout le moins.
La réponse est simpliste, c'est un problème compliqué. Mais je vous pose une question, il y a un grand perdant en fait, c'est quelqu'un qui fait un peu la gueule dans cette annonce. C'est l'assurance maladie, parce que ça fait maintenant 4 ans qu'elle mène des négociations pour créer ce qu'on appelle le choc d'attractivité sur le rôle de médecin généraliste. Quel intérêt derrière? Sachant qu'on rappelle pour nos auditeurs que quand vous regardez les chiffres des choix opérés, on reviendra juste après sur ces questions, sur les médecins formés, ce sont très clairement les spécialités qui sont sur le très devant, entre guillemets, du pavillon, qui sont les premiers choix. Avec une telle mesure, ça ne peut être que renforcé, je dirais.
C'est toute la logique conventionnelle de l'assurance maladie depuis 20 ans qui est bousculée. En imaginant que l'expérimentation marche, les 13 départements, le Premier ministre décide de généraliser. Vous n'avez plus donc de médecins traitants en tant que tel.
Je
vous rappelle que les syndicats médicaux ont décidé de suspendre leur présence dans les négociations.
Tout à fait.
Avec la CNAM. Bon, parce qu'ils sont furieux. Et il y a de quoi. On change les règles du jeu en cours de route, et même plutôt sur la fin du processus. Donc, comment dire, c'est toute la construction, encore une fois, de la politique de l'assurance maladie qui est bousculée avec une telle démarche. On verra bien ce qu'il en sera dans la réalité concrète, comme on dit. On verra bien dans le PLFSS 2025 ce que le gouvernement mettra. Force est de constater quand même que c'est un grand coup de couteau dans le dos des négociateurs de l'actuelle convention médicale.
Alors, autre annonce, on fait encore un petit peu, toujours dans cette idée de, entre guillemets, de déverrouiller le système, si je puis m'exprimer ainsi, ce sont notamment sur la question de la permanence des soins.
Oh, c'est trop drôle.
Donc, l'extension de des gardes et donc des permanences des soins ambulatoires aux infirmiers, aux sages-femmes et aux dentistes.
Vous voulez rire, Alexandre? J'ai posé la question à mon dentiste. D'abord, il ne savait pas.
Il n'a pas lu la PQR ce week-end.
Il savait pas.
Il n'est pas abonné à l'espace.
Il m'a regardé de travers et m'a dit, vous êtes sûr de ce que vous racontez? Si, le Premier ministre a annoncé qu'en cas de besoin, les dentistes pourraient être mobilisés avec les sages-femmes et les infirmières. Alors les infirmiers,
on peut comprendre.
Il peut y avoir une cohérence. Bon.
Surtout les IPA.
Mais les dentistes et les sages-femmes, non, là, c'est pas franchement sérieux. Est-ce qu'il faut une explication supplémentaire à ça? J'en sais rien, c'est pas très sérieux tout ça.
Mais ça me vient un peu la question, et prendre un peu plus d'auteur. Je pense pas que Gabriel Attal ait inventé ça comme ça, sorti du chapeau lors d'une interview. Est-ce que derrière, il y a une stratégie, il y a une logique gouvernementale qui ne dit pas son mot? C'est pas l'assurance maladie qu'il prône, ça c'est clair.
Il y a un peu de sauf qui peut.
C'est quoi? C'est la panique vis-à-vis des remontées de terrain des élus?
Et puis il y a de la com. Sauf qui peut, de la com, ça fait pas bon ménage pour une politique raisonnable dans la durée.
Donc, parmi les autres annonces, pour ceux qui n'ont pas forcément suivi l'actualité, il y a aussi l'extension des prescriptions d'antibiotiques par les pharmaciens en cas d'angine, de cystite. Ça, c'est pas forcément des choses compliquées. Il y a le fameux fantasme français du numerus clausus. Alors, c'est aussi l'extension. Alors, on rappelle quand même qu'il y a des pays qui ont fait sauter le numerus clausus proche de nous.
L'Italie.
Et Pascal, alors, racontez un peu, parce que
les auditeurs sont une catastrophe.
C'est une catastrophe, puisque vous avez actuellement à peu près 80 000 diplômés d'état de médecine italien qui n'exercent pas, qui n'ont pas de travail. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de poste. Il n'y a pas de poste.
Mais il n'y a pas de demande.
Il n'y a pas de demande. On n'a pas besoin forcément de dizaines de milliers de médecins supplémentaires. On en a besoin.
Chaque année, d'accord. Chaque année en plus.
Chaque année. Voilà. Donc tout ça, c'est un peu foufou, encore une fois. C'est pas une construction pérenne. Il lui fallut peut-être se projeter sur 20 ans. Combien de médecins? Quel type de médecine? Quel partage des missions?
Et sur quel territoire, surtout?
Quel territoire?
S'ils sont libres de s'installer, ils sont pas obligés d'aller dans les zones.
Et puis, encore une fois, vous voyez, Alexandre, c'est quoi? C'est une façon de contourner la logique de la contrainte de l'installation des médecins dans des zones désertiques, en rajoutant, si vous voulez, en faisant une inflation de mesures compensatoires fondées sur le volontariat et la bonne volonté, alors que la question centrale, c'est la responsabilité des médecins vis-à-vis du contrat collectif qu'est la convention médicale et quelles sont les règles de l'installation de l'exercice professionnel. Et ça, à un moment donné, on va pas pouvoir tourner autour du pot. Alors, je ne sais pas s'il faut mettre en cause la liberté d'installation, mais en tout cas, il faut peut-être mettre en place des éléments plus contraignants et pas former des dizaines et des dizaines de milliers de médecins.
Qui vont s'accumuler sur le territoire où il y a déjà
Parce que l'évolution même des technologies, des modes d'exercice, de l'éducation, des capacités, y compris des paramédicaux, elle est là et qu'il faut, que tout le monde puisse en profiter. C'est le bon sens, tout ça.
Bon, dernier commentaire, Pascal, pour conclure. Très clairement, non seulement ça brouille les pistes, mais ça réinterroge, ça bouscule, ça, peut-être même ça paralyse, entre guillemets, le secteur sanitaire. Parce que là, le mouvement, je rappelle qu'il y a un appel à la grève générale de tous les soignants, tout secteur confondu. Alors, a priori, je pense que l'hôpital public va faire bande à part, mais tout le reste, entre guillemets, du privé, si je puis m'exprimer ainsi, annonce une grève générale à partir du 3 juin, donc un mois et demi avant les Jeux Olympiques. Il y a quelques jours des élections européennes,
Oui.
personne ne loupera le coche, excusez-moi. Donc voilà, est-ce que on a l'impression que la situation peut pas être résolue comme ça? Qu'est-ce qui peut sortir de entre guillemets recréer les conditions du dialogue, de l'échange, de la
Bon,
construction?
écoutez,
Là, à terme, c'est comme ça va être compliqué là.
difficile de répondre parce que tout ça s'inscrit dans un contexte général qui n'est pas très bon.
C'est clair?
Il y a les élections européennes, il y a la crise, il y a la guerre, il y a le géopolitique, il y a les élections américaines absolument majeures, il y a la situation nationale en matière de déficit de dette. Bon, voilà. On n'avait pas besoin de ça, honnêtement, Alexandre. Ce qu'on a besoin, c'est de calme, c'est de vision, c'est de temps, c'est de méthode, voilà, c'est de bon sens. Et voilà, donc tout ça, c'est manifestement, dans le domaine de la santé, il n'y a plus de pilote.
Ça, c'est
Il
clair.
n'y a plus de pilote. Voilà, c'est le sentiment qu'on a. C'est un sentiment de tristesse et d'amertume.
Merci Pascal pour votre contribution. Merci
De
pour
rien,
ce mot de
Alexandre.
conclusion que je pense que vous n'êtes pas le seul à partager. Voilà. En tout cas, nous vous retrouvons très prochainement pour un autre numéro de SE Décrypte pour parler d'actualité et d'autres sujets dans la sphère sociale et sanitaire. À très bientôt. Au revoir.